Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Deuxième interview, je reçois Alexandre Chérier, président de Foncière de Transformation Immobilière du groupe Action Logement. Bonjour Alexandre.
Bonjour Myriam.
Alors, deuxième interview parce qu'effectivement, on avait tellement de choses à dire sur la première, surtout vous bien évidemment, que il a fallu absolument tricoter une autre interview et surtout regarder deux points extrêmement précis. Vous évoquiez le fait que c'était un levier important pour les bailleurs. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu le propos? Parce que effectivement, ça peut donner du nouveau produit, entre guillemets, mais si vous pouvez détailler un petit peu.
Alors Myriam, si vous me laissez une minute.
Mais oui, bien sûr.
Voilà, donc on construit en fait, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le démembrement foncier avec un vieil outil qui est le bail à construction, une forme de bail en fait antique sur très très longue durée, 30, 40, 50, 60 ans et plus. Et ce bail, ça nous permet quoi? Ça nous permet de neutraliser le coût d'acquisition, donc ce qu'on appelle communément la charge foncière, une partie importante de ce coût pour le bailleur. Un exemple, parce qu'on va construire en fonction de son
bilan.
Oui,
donnez-moi un exemple, soyez pragmatique.
Alors un exemple, vous avez un immeuble de bureau qui vaut intrinsèquement 10 millions d'euros. Mm-hmm. Le bailleur social va construire son bilan avec 15% de fonds propres et va déterminer ce qu'il peut l'acheter. Il va tomber par exemple à 3 millions d'euros. Mm-hmm. Il ne peut pas faire l'opération. Et bien la foncière peut aller acheter cet immeuble à 10 millions d'euros et va construire un bail sur 40, 50 ans, va demander simplement une couverture partielle du coût d'acquisition au bailleur social de l'ordre de 30 à 40%, donc entre 3 et 4 millions d'euros. Le bailleur va pouvoir faire ses travaux, cette fois sans mettre de fonds propres et en dégageant un peu de marge nette, parce que c'est normal quand on prend des risques, qu'on avait sans précédent. Donc on a un effet de levier qui est astronomique.
Alors qui paye le différentiel des 7 millions
ben, à la fin, il y a remembrement au profit de la foncière et on vendra l'ensemble ou on fera à nouveau un bail longue durée. Et en fait, on l'amortit, nous, dans le temps. Sur cette phase-là, le temps est notre allié. Quand on fait du montage, il est notre ennemi, mais sur cette phase-là, le temps est notre allié. Et comme le groupe ne demande pas de rémunération de ses fonds propres, ça nous permet de faire cette proposition de valeur. Notre finalité, c'est de faire du logement abordable, de qualité pour les salariés dans les secteurs les plus tendus. Et le groupe s'en donne les moyens avec ce modèle économique.
Alors, ce bail à construction, donc c'est, on va dire, c'est votre ADN, quelque part. Est-ce que il est mis en œuvre à chaque fois ou est-ce qu'il y a des exemples où vous pouvez, faire l'opération rapidement sur des petits fonciers, sur des petits immeubles de bureaux, peut-être dans le diffus?
Alors, c'est l'outil du bail, c'est ce qui nous permet de neutraliser pour le bailleur social. Mais comment on fait de la mixité, qu'on peut produire aussi, faire produire du logement libre à l'accession, parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter de faire du zoning, il faut faire des choses intelligentes. Et bien là, pour ce qui est des autres produits, pour les autres, on revend les droits en pleine propriété aux opérateurs.
Donc on pourrait très bien imaginer un joli immeuble de bureau qui est découpé en trois parties, du logement social, du logement en accession,
du logement intermédiaire,
un peu de coworking, un peu de bureau à rez-de-chaussée, etc. Et ça veut dire que cette mixité fait qu'il y a une partie en bail à construction, mais une partie en pleine propriété.
Voilà. On apporte cette ingénierie foncière, c'est complexe, mais ça fait partie de l'offre de service de la foncière. Donc Myriam, vous pouvez tout imaginer, et ce n'est pas une fausse promesse.
Ah, formidable. Alors, expliquez-moi un petit peu, justement, donnez-moi quand même un petit exemple, surtout sur la réaction des élus, parce que ça pourrait paraître complètement intéressant, mais difficile. Pour un élu, il doit regarder le PLU, il doit faire accepter cette transformation aux habitants, ça crée de fait du logement, donc ça crée de fait une demande, voire une accélération des demandes sur les équipements. Comment fait-on pour trouver le bon équilibre?
Alors, je vais prendre un exemple sur la commune, une commune à côté de Saint-Germain-en-Laye, Le Pecq, avec Madame Laurence Bernard, la maire du Pecq, avec qui on a tout de suite trouvé un terrain de confiance ensemble. Et on va intervenir sur un immeuble de bureau qui est en plein dans son centre-ville, qui était vide depuis longtemps, qui a une particularité, c'est que toute la partie bureau était vide et il reste une petite galerie commerciale dessus. Alors, pour aller vite, parce que c'est un sujet qui mériterait les 12 minutes à lui tout seul, mais on arrive à fonctionner de manière collective, en confiance, dans une vision d'ensemble. Il y a les PFIF qui l'achètent dans un premier temps pour faire le portage primaire, ce qu'on pourrait faire nous, mais c'est mieux quand les PFIF le font. La foncière va le racheter. On va produire du logement familial et du logement jeunes actifs et étudiants. On va produire du libre et du social.
Et vous laissez les commerces en activité.
Et on laisse les commerces et on va c'est même pas qu'on les laisse, c'est qu'on va reprendre tout l'immeuble, toute la façade, redonner une commercialité, un parcours commercial très large, parce que la ville va accompagner cette transformation.
C'est compris par l'espace public.
Par l'espace public. D'accord. Et donc, on va se trouver, on va construire un écrin dans cet endroit qui est déjà magnifique, juste de près des collines de Saint-Germain. On va reconstruire une autre histoire à cet endroit-là. On va ramener du flux, du monde, de l'offre, de l'activité. Et au final, tout le monde est gagnant. Et quand je parle d'intelligence, de confiance et de générosité, c'est parce qu'on construit notre modèle dans cet esprit-là. Et au final, tout le monde gagne plus. Parce que ce qu'on fait là, en fait, c'est qu'on crée une valeur sociétale, économique, environnementale très, très forte.
Et alors, comment fait-on accepter les choses et regarder les choses du point de vue de l'obligation de créer des équipements, d'avoir, je dirais, peut-être en centre-ville, 100, 200, 100 logements en plus, 150 logements en plus? Ça peut être compliqué.
Alors là, dans le cas particulier, les équipements scolaires permettent d'absorber les choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'acceptation des collectivités, c'est un vrai enjeu. Et je pense aujourd'hui, l'État qui nous mobilise pour impulser encore plus, massifier la transformation bureau-logement. Moi, je ne fais pas partie des acteurs de donner nous des aides. Je dis aider les collectivités locales qui sont volontaristes sur cette transformation bureau-logement. Il y a un effet ciseau, c'est de la fiscalité économique qui est substituée par des besoins des équipements de service, il faut donner les moyens aux collectivités locales.
On ne peut pas perdre d'un côté et continuer à perdre sans avoir une aide.
Il faut accompagner les collectivités. Et il y a des collectivités qui sont motrices sur le sujet, qui ont cette limite-là de capacité financière du fait de la tension sur les ressources publiques. Donc il faut trouver le moyen de les accompagner pour faire en sorte qu'on puisse faire ces transformations dans des délais raisonnables. Et je pense qu'elles y sont prêtes si on arrive à trouver les outils pour
Là, on parle de locaux, de bureaux. Comment fait-on pour transformer des locaux d'activité ou des boîtes à chaussures? Vous allez aussi sur cette boîte à chaussures avec...
Alors, nous, on achète...
Sur cette ligne-là?
Oui, on est en capacité d'acheter tous les actifs qui sont aujourd'hui à vocation économique, enfin, qui ne sont pas à vocation résidentielle. Donc, on achète des cliniques, des parkings silos, des sites d'activité de concession automobile, des bureaux, des hôtels. Voilà, on est...
Bon, alors, j'ai quelques idées. Je vais vous trouver des produits.
Bon, écoutez, vous serez la bienvenue, Myriam. Vous savez que nous sommes, un outil de place, en quelque sorte, parce que nous respectons, je le répète souvent, nous respectons le métier, le modèle économique de chacun. C'est comme ça qu'on y arrive, c'est comme ça qu'on va vite. Et aujourd'hui, il faut qu'on aille vite pour répondre aux besoins de logement, notamment des salariés, mais pas seulement. Et donc, il faut se mettre dans des démarches intelligentes où l'on puisse collaborer en toute confiance ensemble. C'est ça qui fait la réussite. On a eu un démarrage express. On continue sur la lancée. On est confiant et on est sans prétention, parce qu'on utilise beaucoup les savoir-faire des uns et des autres. On partage tout ça et on arrive de ce fait à être efficace.
Alors, je vais parler un petit peu technique, parce que vous disiez que vous aviez la possibilité d'aider les élus très en amont avec des techniciens qui ont un vrai savoir-faire, on va dire, sur justement l'aide à la transformation, l'aide en tout cas à l'acceptation. Aujourd'hui, la plupart de ces immeubles de bureaux en centre-ville, qui sont des années 70-80, sont avec des panneaux préfabriqués en façade, des façades vitrées, ou des panneaux préfabéton. Comment fait-on justement pour garder cette ossature poteau-poutre et puis dalle béton et puis transformer cette façade en lui donnant du caractère et en permettant d'être aussi développement durable?
Alors on a un enjeu majeur là-dessus. Faire du résilient, c'est indispensable.
Bien sûr.
Et donc là-dessus, il faut être exigeant et notre modèle économique permet cette exigence. C'est ça qui est un élément important.
C'est-à-dire pas de fenêtres PVC?
Par exemple, ça fait partie
du sujet. J'ai cru comprendre que vous étiez vigilant sur le sujet.
Oui, je suis vigilant. Après, on est aussi comme les uns, il faut faire des choix moment, mais en tout cas, on a une ambition. Moi, je prends l'engagement avec les collectivités, et les gens savent que quand je prends un engagement, je le tiens. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose avec les partenaires sur lequel je suis exigeant. Au-delà de ça, je pense qu'on a un enjeu collectif qui peut jouer aussi sur les coûts, mais quand on intervient en milieu dense, c'est de pouvoir impacter le moins possible l'environnement.
Et ça, c'est un problème dans l'acceptation de la collectivité et des habitants, c'est majeur.
Majeur.
Parce qu'effectivement, les rotations de camions, etc.,
Donc je pense qu'il faut être ambitieux là-dessus. Dans mon précédent job, j'ai eu la chance de signer le développement
de
5000 logements structure bois. Je pense que j'étais très, très fier de ça. C'était au tout début. Et donc on a construit une proposition de valeur qui a permis de mobiliser les acteurs là-dessus. Et là, c'est pareil, c'est une ambition que l'on a. Comment on peut utiliser le hors-site pour être beaucoup moins impactant vis-à-vis de l'environnement, pour faire les logements, les chantiers, pardon, plus rapidement. Donc ça, on va se renforcer au fur et à mesure du retour d'expérience qu'on va avoir, et on est très preneur des bonnes idées là-dessus. On n'est pas maître d'ouvrage, mais on peut être inducteur sur ces technologies-là, et je pense qu'il y a plein d'architectes, et pas que, d'ingénieurs, d'entreprises qui ont des choses à proposer là-dessus, et moi je fais une sorte d'appel.
Il y a des filières professionnelles, mais éducatives aussi, puisque, comme vous le savez, il y a aujourd'hui des écoles professionnelles pour les jeunes sur ces nouveaux métiers du bâtiment, et pourquoi pas là-dessus.
Voilà, tout à fait. Donc il faut qu'ils se mobilisent aujourd'hui, c'est majeur qu'il y ait cette mobilisation-là, c'est le moment ou jamais de monter au créneau, de proposer ça. C'est pas facile, il faut bouleverser certaines cultures qui existent depuis très 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 longtemps.
Et la réglementation, comment fait-on pour contourner un petit peu cette réglementation lourde que nous avons?
Alors, vous savez que je dis souvent, Myriam, vous savez, qu'il faudrait moins de réglementaires et plus d'intelligence. Bon, il y a des capacités d'expérimenter, des choses comme ça. Bon, voilà, mais je pense que c'est en démontrant, c'est en faisant qu'on pourra faire bouger les choses sur la réglementation. Voilà, donc avançons. Des fois, on se met un peu dans les trous de souris, mais je pense vraiment qu'il faut aller vers cette démonstration. Et cette démonstration, elle permettra de faire évoluer, assouplir la réglementation.
Alexandre, je me permettrai de vous recevoir dans un an pour voir justement le retour d'expérience et que vous nous expliquiez un petit peu le devenir de cette belle foncière et avec toutes les choses que vous avez mis en route avec votre belle équipe.
Merci Myriam, un an ça va faire long, je suis un peu triste, mais bon, bien volontiers.
Non, on essaiera avant. Merci Alexandre, merci à vous.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.